Donc, bientôt, je vais passer la parole à Mireille Grosjean, donc, qui sait parler. Donc, elle sait parler donc, le français, mais elle sait aussi parler l'allemand, puisqu'elle a été prof de français en Suisse alémanique, mais inversement, elle a été prof d'allemand en Suisse romande, et puis elle connaît aussi les autres, plus ou moins les autres langues officielles de la Suisse, et puis les dialectes et toutes ces sortes de choses. Et donc elle peut aussi enseigner le suisse-allemand pour ceux qui veulent l'apprendre, et d'autres. Et juste, il me revient en mémoire une chose, donc les langues, c'est ce qui unit les gens et c'est aussi ce qui les divise. Ce matin, nous avons parlé de la Bible, et donc de l'histoire de prononcer quelque chose qui permettait aux gens de se reconnaître, de reconnaître les étrangers en leur coupant la tête si besoin était, s'ils ne prononçaient pas de la bonne manière. Donc je crois que le mot à prononcer, ça devait être chibolette. Ça m'est revenu.
C'est chibolette, exactement.
Voilà, donc j'ai fini.
Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je vous remercie beaucoup d'être présents ici ce soir et j'espère satisfaire vos attentes avec ma présentation sur langue dominante, langue internationale et langue universelle. Alors dites-moi si vous m'entendez tout aussi bien comme ça. Ça va? D'accord. Donc, Orléans, le 19 janvier 2016. On commence par langue dominante, puisque le sujet m'a été proposé comme ça. Et la première idée qui me vient, c'est l'Afrique. Vous savez certainement que tous les Africains sont polyglottes. Ils savent au minimum la langue du village de papa, la langue du village de maman, et en général, très souvent mais pas toujours, la langue qui est l'ex-langue coloniale, qui peut être l'anglais, le français, l'espagnol ou le portugais. Et j'ai étudié ce rapport entre les différentes langues utilisées en Afrique. C'est une situation qui s'appelle la diglossie. Parce qu'on emploie deux langues, mais souvent c'est trois ou quatre, mais bon, ça s'appelle diglossie, avec cette racine grecque de gloss pour la langue. Et on a un très joli mot en espéranto, c'est du idiomismo. Et pour vous expliquer, parce qu'il y a des tas de gens qui ne connaissent pas ce phénomène, même des linguistes, et ils me disent, mais c'est du plurilinguisme, c'est du bilinguisme. Or, le bilinguisme, ça va être, si je me trouve face à un Allemand, je vais lui parler en allemand. Je me trouve face à vous, on a le français en commun, je vais utiliser le français. La diglossie, ça n'a rien du tout à voir avec ça. Il m'est venu l'idée, quand j'étais sur une autoroute. Vous êtes sur une autoroute, en principe vous roulez à droite, tout à coup il y a devant vous un camion qui est plus lent, donc vous passez sur la gauche, vous faites un petit bout sur la gauche, après vous remettez sur la droite, vous repassez à gauche, puis vous faites X kilomètres avec cette manière-là. C'est ça qui se passe avec les Africains, qui changent de langue n'importe quand. Ils peuvent raconter une longue histoire et puis commencer en français et puis passer dans une langue locale, revenir en français. Ça peut même être au milieu d'une phrase. Ça, c'est la situation que j'ai pu observer durant 10 ou 11 séjours en Afrique, si je me souviens bien. Je me base sur mes observations au Sénégal, au Togo, au Bénin et au Burundi. Maintenant, ce qui est intéressant dans notre contexte d'aujourd'hui, c'est le rapport des Africains avec l'ancienne langue coloniale. Parce qu'ils doivent l'apprendre, je devrais dire la maîtriser, mais je me refuse d'utiliser maîtriser pour une langue, parce qu'une langue c'est comme une forêt vierge et on n'a jamais fait le tour. Donc je ne maîtrise pas le français, parce que je continue à découvrir des mots en français sans arrêt. Alors je dis pratique courante dans ma situation, c'est ma langue maternelle. Vous pouvez certainement l'entendre, bien que j'aie un accent suisse, évidemment. Donc, il y a ces langues comme le français au Bénin ou le français au Togo qui sont nécessaires, qui sont une clé pour une avance sociale, une promotion sociale. Donc, les Africains essayent d'utiliser cette langue le mieux qu'ils peuvent. Mais comme c'est la langue de l'ancien dominant colonisateur, elle est aussi détestée et on se livre tout autrement quand on parle une langue locale. Donc c'est une espèce de relation qu'on pourrait appeler amour-haine. Et ça, c'est très intéressant. Je regarde, par exemple, sur les publicités. Les grandes publicités en ville, la plupart sont en français, mais il y a aussi des publicités en langue locale. Donc, ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'on va mieux vendre en mettant une pub en langue locale. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que la diglossie existe aussi dans la partie dite germanophone de Suisse, où personne ne parle allemand, où tout le monde parle des dialectes. Alors pour moi, c'était très intéressant, j'ai fait maintenant 3 ans d'études d'interlinguistique à Poznan, en espéranto, en Pologne, Poznan, et j'ai pu comparer la situation de la Suisse germanophone et de l'Afrique sur ce plan de la diglossie. Alors c'est clair qu'il y a des différences parce que les Suisses allemands n'aiment pas du tout parler allemand et le font à contre-cœur. Maintenant il y a des liens, les dialectes suisses allemands sont évidemment des dialectes germaniques et ils sont cousins de l'allemand. Un allemand ne comprend pas en Suisse. Mais il y a une parenté. Par contre, entre les langues africaines et le français ou l'anglais ou le portugais, il n'y a aucune parenté. Ça, il faut le dire. J'ai pu voir des séries télévisées en Afrique, à la télé. Et c'est très intéressant de voir que si la série télévisée est, non, elle est jouée par des Africains, faite pour les Africains, mais si c'est en français, ça sort de l'intellectuel. Si c'est en langue locale, ça sort du cœur ou des tripes, on peut dire ça comme on veut. Mais le rythme est différent. Les réponses du tac au tac, c'est un tout autre rythme. Et c'est beaucoup plus vrai. Maintenant, mon observation était tout à fait biaisée, dans le sens qu'il y a toujours la possibilité que mes amis, en ma présence, passent à la langue locale pour dire « elle a rien compris » ou dire quelque chose que je ne dois pas comprendre. Ça, c'est évident. Donc, ce qu'il faudrait, c'est vraiment faire des enregistrements, enregistrer des corpus comme font les linguistes. Il y a beaucoup d'observations sur ce phénomène qui sont faites des universités au Québec. Parce que vous savez qu'on a un grand stock de partenaires francophones de l'autre côté de l'Atlantique et eux sont très actifs dans l'observation linguistique dans les pays francophones d'Afrique. Donc j'ai vu sur Internet, il y a énormément d'études qui sont faites par des Québécois en Afrique. Donc langue dominante, c'est clair que tout le continent africain est touché par ce problème d'une manière très particulière. J'ai travaillé à l'ONU au Conseil des droits de l'homme comme un des 5 délégués de l'Association universelle d'Espéranto pendant 2 ans et on m'a dit à midi, à 13h30, tu vas interviewer le président mondial des Berbères. Donc j'avais aucune minute pour me préparer. Puis dans la discussion, c'était enregistré, filmé et tout, dans la discussion j'ai dit à ce monsieur, oui le français en Algérie c'est une langue coloniale. Puis il me répond, mais l'arabe aussi. Et les arabes sont en principe en Arabie. Et puis s'ils sont hors d'Arabie, c'est qu'ils se sont étendus. Et là, on voit en Afrique du Nord, si on considère ces populations berbères, qu'il y a en fait 2 couches de langues dominantes. Il y a l'arabe et puis il y a le français qui est venu aussi en Afrique du Nord. Voilà pour clore cette partie sur l'Afrique qu'on ne peut pas ne pas mentionner. Vous avez ici le logo de l'ONU. En passant, il vous faut l'observer parce que la carte du monde doit être neutre puisque l'ONU est à tout le monde. Et vous voyez que le monde est représenté vu sur le pôle Nord. Savez-vous quelles langues sont utilisées à l'ONU ? Anglais, français, russe, chinois et espagnol. Voilà, exactement. Anglais, français, espagnol, russe, arabe et chinois. Et là, on a, alors, dans les séances plénières, on a les interprètes et on entend dans les silences. Vous prenez le canal 1, vous avez la personne qui parle dans la salle. Et vous prenez le canal 2, vous avez toujours l'anglais. Soit en direct, soit par les interprètes. Canal 3, toujours français, etc. jusqu'au canal 7. Et ça, c'est la situation à l'ONU. Mais il y a des séances dans des plus petites salles, dans des groupes de travail plus réduits, où on a français-anglais avec traduction, où on a français-anglais sans traduction, où on n'a plus que l'anglais. Et les collègues africains que j'ai vus, souvent, ben, ils étaient dans les corridors, sur les canapés, parce que quand on n'a que l'anglais, pour certains francophones, ils sont en voie de devenir une minorité. Maintenant, c'est évident que l'ONU ne peut pas considérer les 6000 langues du monde. C'est clair, pour des raisons financières. J'ai fait deux déclarations au Conseil des droits de l'homme et une était sur ça. On ne veut pas l'ONU qui ne fonctionnerait que sur une langue. Donc, le travail des représentants de l'espéranto à l'ONU, c'est capter les problèmes linguistiques qui peuvent se produire, que les gens peuvent chercher sur Internet, et on fait ensuite des enquêtes et on présente des problèmes ou des louanges quand on a la Malaisie qui réintroduit les lycées en langue malaise, etc. Il y a du positif et du négatif et c'est protocolé. Maintenant, l'ONU ne va pas courir derrière les États pour leur dire que vous devez faire attention à ceci ou ça. Donc, on a un observatoire sur un site. On avait le site droit-linguistique.org et maintenant, on n'a plus que linguistique-rights en anglais. Ici, on a, et vous voyez, on entre dans le problème de l'hégémonie de l'anglais, langue dominante actuelle, qu'on va un peu étudier tout ça. Ici, vous avez une page du site de la Confédération Suisse. Vous le voyez parce que vous avez le petit blason là en haut, ça c'est le site officiel. Et la Confédération s'adresse aux Suisses avec un slogan « Smoke free » qui est en anglais. Alors, si en Suisse on a de l'anglais dans les commerces, par exemple, vous avez des ventes en promotion où on peut lire « sale, sale, sale », etc. C'est difficile à gérer l'aspect commercial, mais c'est inacceptable que la Confédération Suisse, les offices fédéraux s'adressent aux gens en anglais. On a eu un autre programme qui s'appelait Feel Your Power. On a le site des échanges guichet Erasmus qui s'appelle Go, qui est soutenu par la nouvelle société helvétique qui est des plus à droite conservatrice et noble. Et maintenant ça s'appelle Go. Donc il y a un problème. J'ai eu dans un grand centre culturel à la Chaux-de-Fonds qui s'appelle le Club 44, il est venu le ministre de l'Intérieur et il y avait 250 personnes et j'ai pris la parole en disant si vous nous livrez des trucs pareils, moi j'arrête de payer mon impôt fédéral. Et j'ai été applaudie. Mais il faut vraiment que nous manifestions auprès de nos autorités parce que à mon avis, c'est tout à fait inacceptable. On parle d'impérialisme, et j'aime beaucoup ce mot de Coca-Colanisation. Il y a des gens qui disent McDonaldisation. Mais j'aime mieux Coca-Cola. Parce que quand on dit Coca-Cola, ça ressemble à colonisation. Et vous savez certainement la différence entre la colonisation et l'impérialisme. Dans la colonisation, vous avez des gens de la métropole qui vont s'installer dans le pays conquis. Tandis que dans l'impérialisme, non. Mais il y a toute l'influence, livraison de matériel, échanges commerciaux, obligation d'apprendre la langue, sans qu'il y ait des nationaux qui vont vraiment déménager. Et on est sous un impérialisme américain qui remonte à 1945, et des victoires à la fin de la Deuxième Guerre avec l'aide des États-Unis. Et on va voir un petit peu comment elle se fait. Alors, j'ai photographié mon clavier d'ordinateur, puis je suis arrivée ici au Zobré, j'ai trouvé un ordinateur qui était en français, le clavier. Chez nous, on a pratiquement que des claviers en anglais. Mais en Suisse, souvent, on nous envoie l'anglais parce que les commerçants ne veulent pas faire la différence entre les zones francophones, germanophones, italophones. Alors, le problème de la Coca-Colanisation, c'est que on a l'anglais dans l'informatique, dans l'aviation, dans les affaires. Donc, ces trois domaines étant très importants dans la société actuelle, ben, l'anglais devient très important. Ça, c'est sûr. Donc, c'est une constatation. Maintenant, il faut bien voir ce qui se passe avec l'anglais. Parce que nos savants francophones doivent apprendre l'anglais pour publier en anglais. Et on n'est jamais vraiment sur le même pied. Parce que pendant que je cherche mes mots, l'anglophone cherche déjà ses arguments. Le locuteur natif a toujours un coup d'avance. Et ça, moi j'ai pu le voir X fois, c'est très très difficile pour un non-anglophone d'arriver à maîtriser, entre guillemets, l'anglais comme un native speaker, comme on dit souvent en français, mais il existe le mot locuteur natif, alors employons-le. Voilà. Donc ça c'est un aspect. Et l'autre aspect, ici vous avez cette situation. d'une dame brillante qui parle en anglais, et puis l'autre se pose la question, comment ça va se passer, je vais devoir me lancer à l'eau, dire quelque chose, etc. Au niveau des savants, imaginez que vous faites des recherches en physique, vous devez travailler la nuit à apprendre l'anglais. Par contre, le savant anglophone, il n'a pas cette tâche supplémentaire, il arrive en premier au brevet et au prix Nobel. Et ça, c'est pas tellement considéré, c'est très regrettable. Là-dessus, il y a beaucoup d'ouvrages de M. Charles Durand. Vous connaissez peut-être les ouvrages de Charles Durand sur cette problématique. En plus de ça, Charles Durand, il insiste sur le fait qu'on est toujours plus inventif dans sa langue maternelle. Donc si on force quelqu'un à travailler dans une autre langue, que ce soit l'anglais ou le chinois ou autre chose, on n'est jamais créatif comme on est créatif dans sa langue maternelle. Donc, en lisant Charles Durand, on trouve des citations de différents chefs d'entreprise qui disent « J'aime mieux qu'on se comprenne, on se traduise parmi, selon les capacités de tous, mais que chacun puisse vraiment s'exprimer dans sa langue maternelle, parce que c'est comme ça qu'on est vraiment en prise directe sur l'intelligence et la créativité de la personne. » Donc là, vous voyez cette injustice. Et c'est pour ça que dans le milieu de l'espéranto, on a l'idée de la langue équitable. Puisqu'on n'a pas de locuteur natif brillant qui va en remontrer à tout le monde. Il y a quelques locuteurs natifs, à ma connaissance, ils sont moins de 1000 dans le monde. Donc ce n'est pas une population qui est menaçante comme l'ensemble des anglophones est menaçant pour le monde entier. Il suffit de demander aux Québécois, puis vous aurez une petite idée. La coca-colonisation est là, on voit avec l'espéranto l'autre situation. L'anglais et l'espéranto sont semblables à deux droites non coplanaires. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est en mathématiques, mais si je fais comme ça avec les bras, vous comprenez. Ça veut dire que ce sont deux usages. Quand j'étais à l'ONU, je disais aux gens « bonjour », puis ils me répondaient « English please, ok, on passe en anglais ». Mais j'utilise l'anglais pour acheter un billet d'avion. Avec l'espéranto, je me fais des amis. Et il y a un professeur d'université à Katmandou qui a l'habitude de dire, un espérantophone, qui a l'habitude de dire, j'arrive quelque part, je parle espéranto, il y a quelqu'un qui m'attend à l'aéroport qui va m'accueillir, qui va me piloter, etc. Mais vous apprenez l'anglais, vous arrivez à Londres, il n'y a personne qui vous attend. Voilà, ça c'est la manière d'exprimer de M. Mukunda Rai Patik. Ici, vous avez un petit cours d'espéranto. La latina estis, la angla estas, esperanto estos. Vous avez les trois temps, le passé, le présent et le futur. Alors, on a eu le latin, maintenant on a l'anglais et l'avenir c'est l'espéranto. Je vous dirais qu'en Afrique, les francophones, ils apprennent pas l'anglais, ils apprennent le chinois. Maintenant, je dois ajouter que entre le latin et l'anglais, on a eu cette fameuse phase où le français était la langue diplomatique du monde entier. Et sur ce t-shirt, ils n'ont pas fait une ligne avec le français. Donc, je vous prie, c'est pas moi qui ai fait ce t-shirt, je vous prie de m'excuser. Voilà. Et ça, vous connaissez certainement, c'est la signature de Kavana. Quand la Société des Nations s'est penchée sur l'espéranto en 1923, toutes les décisions de la Société des Nations devaient être prises à l'unanimité. Et la France a torpillé le projet, a voté contre, et il n'y a pas eu l'introduction de l'espéranto à la Société des Nations comme langue de travail. Et Kavana a écrit « Vous ne voulez pas l'espéranto, vous aurez l'anglais bien fait pour vos gueules ». Ça, c'est Kavana. Maintenant, on peut laisser les langues dominantes, c'était un bref aperçu, et j'ai essayé de vous présenter ce que c'est que « international ». Les langues internationales. Je dois vous dire que le mot nation, il me dit à moi rien du tout. Parce qu'il n'y a pas de nation en Suisse. La Suisse est constituée de trois ethnies et de beaucoup de tribus dans des vallées et sur des montagnes. Et le mot nation ne me dit rien du tout. J'ai séjourné 4 fois au Japon en tout une année. Et les Japonais, ils n'arrivent pas à me comprendre sur ça, parce que le Japon est une nation très homogène. Au Japon, il n'y a que des Japonais. Puis s'il y a quelques Coréens, ils se dépêchent de se japoniser, puis de prendre un nom japonais, puis de camoufler leur origine coréenne. Puis leurs quelques indigènes au nord et au sud, ben, ils ont des droits, oui, mais dans la pratique, les droits ne sont pas respectés. Donc, on a ce concept de nation qui est une invention humaine. On a des ethnies qui sont en rapport avec un territoire, une langue, une culture. Ça, les ethnies vivent comme on a des populations de plantes qui commencent à envahir un pierrier, mais la nation vient d'en haut et c'est une conception humaine. Puis on peut imaginer des langues entre ces différentes nations. Maintenant, j'ai entendu parfois le terme de transnational. Alors, si je voulais dessiner quelque chose qui est transnational, je verrais assez une pelote de laine avec les deux longues aiguilles de la grand-mère à travers la pelote et puis on traverse. Mais on est toujours embêté avec la nation, avec ses idées de nation. Donc, vous voyez comment on imagine la Terre à gauche, puis comment elle est en réalité à droite. Et on est formaté par nos cours d'histoire et de géographie qui nous mettent ces frontières, ces drapeaux, etc. dans la tête. Or, la réalité, elle est beaucoup plus floue et on est dans une situation de mélange. J'en parlais avant avec monsieur, j'habite à 500 mètres de la frontière française. J'ai le Doubs devant chez moi et puis je vois que la France, comme je vois les murs noirs de cette salle. Eh bien, on a les mêmes oiseaux, les mêmes poissons, on a les mêmes sapins, j'entends les cloches quand il y a un mariage ou un 11 novembre à Villers-le-Lac. La frontière, elle est totalement arbitraire, elle est plantée là. Bon, c'est une autre conférence que j'ai sur la frontière. Je ne vais pas la commencer maintenant. Les frontières sont un viol permanent que l'histoire inflige à la géographie. Et ça me plaît beaucoup. Il n'y a aucune raison que le Doubs devant mon village soit une frontière. Il pourrait être la même chose le Rhin en Alsace, entre l'Alsace et la forêt noire. Il n'y a aucune raison. Donc on doit bien se rendre compte qu'on est formaté par les frontières qu'on doit apprendre et les drapeaux et tout cet aspect-là. International, ça n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. La réalité, c'est un mélange. Alors, si j'étais en Suisse, je vous présenterais le Bircher Müsli. Je ne sais pas si vous mangez du Bircher Müsli, mais la réalité, c'est un mélange. Donc, c'est clair que dans une école, pédagogiquement, vous pouvez dire aux élèves, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Les élèves, ils vont dire, ah, tiens, bon prof, on a bien compris. Mais le prof n'a pas le droit de simplifier la réalité. La réalité, elle est complexe. Un être humain est un mélange. Les populations sont des mélanges, ils l'ont toujours été, ils le sont plus maintenant qu'avant, on est d'accord, puisqu'on a des moyens de transport qui se sont améliorés, et même avec des moyens de transport performants, on a des gens qui remontent toute l'Italie puis qui arrivent à pied en Suisse, qui passent les Alpes en hiver avec femmes et enfants, et on a aussi eu des décès d'enfants d'immigrés parce qu'ils ont essayé par des températures comme maintenant de passer les Alpes. Donc, on a un mélange, les gens bougent. Dans mes séjours en Afrique, 11 jusqu'à maintenant, on me dit, lui, il vient de là, puis il était là avant, et puis vous avez des Congolais qui sont au Bénin, puis vous avez des Béninois qui sont au Sénégal. Ça bouge sans arrêt, les gens sont en mouvement. Et on vous a dit mon nom, Grosjean, eh bien, il y a 5 ou 6 ans, j'ai appris qu'en fait, c'était Grosjean, puis c'était Arménien. Donc je ne sais même pas d'où je viens, plus précisément mon mari, évidemment. Donc, on ne peut pas... L'idée d'une race pure ou quoi, c'est une vue de l'esprit, ça n'existe pas. Maintenant, au niveau de la langue, une langue internationale ne peut pas être une langue nationale. Parce que vous aurez les avantages pour les nationaux. On en a parlé déjà avant. Donc ça, c'est vraiment une chose très importante. Une chose qui a été soulignée par des quantités de gens ou de philosophes ou de politiciens. Et c'est l'avantage de l'espéranto qui a été créé en tant que langue internationale et qui appartient à tout le monde et à personne. On y reviendra après. Si vous élevez une langue nationale à une langue internationale, au statut de langue internationale, ce serait comme si vous mettiez M. Hollande à la tête de l'ONU sans qu'il ne quitte la présidence en France. C'est pas possible, vous voyez. Donc, il faut se poser la question comment résoudre ce problème. Je passe maintenant à l'universel. Et on va parler des langues universelles, et on commence par Andante Maestoso. Les langues universelles, il y a des domaines qui sont liés à des langues. La musique classique est liée à... Regardez Andante Maestoso. C'est l'italien. N'importe quel musicien, qu'il soit coréen, japonais, chilien, va savoir ce que c'est un fortissimo, andante, largo, andante, maestoso, etc. C'est la langue universelle pour la musique. Il y a, alors, bon, c'est clair que les musiciens italiens ont brillé, mais si vous regardez Bach et Beethoven, ça aussi peut être l'allemand, il se trouve que c'est l'italien. Pour la technique du violoncelle, c'est l'allemand. Donc, voilà. Maintenant, ceci, c'est un sport qui s'appelle l'escrime, où vous avez tous les termes techniques en français. Ce qui signifie que les cartes, les quintes et toutes ces choses-là, que vous soyez escrimeur allemand ou anglais, les termes techniques sont en français. Ceci, c'est le ballet classique, où on fait des entrechats, des pirouettes, des déjetés, première position, deuxième position. Une petite danseuse coréenne qui vient au prix de Lausanne, elle connaît tout ça en français. D'accord ? Et ici, vous avez l'aïkido et évidemment les autres arts martiaux japonais, où tous les termes techniques restent en japonais et sont connus de tous les pratiquants d'aïkido. Ici, vous avez le ai, le ki et le do. Tous les gens qui pratiquent un art martial vont apprendre les termes en japonais. Je peux imaginer au sujet du tai chi que les positions existent en chinois, puisque le tai chi vient de Chine. Est-ce que UPU vous dit quelque chose? Union postale universelle. Et là, on voit que le mot universel, il a été beaucoup utilisé à la fin du 19e siècle. Le 19e siècle, vous avez appris ça, la révolution industrielle, on a une quantité de déplacements, de gens qui bougent, on a l'impression qu'on va maîtriser le monde, on a l'impression que les progrès scientifiques sont sans fin, et on a, à cette fin du 19e siècle, un état d'esprit qui est assez... On oublie un petit peu cette pulsion qu'il y avait à ce moment-là, et là, à cette époque, sont nées différentes organisations ou activités avec ce mot « universel ». Qui veut dire en fait dans le monde entier. Et on a ici l'Union postale universelle qui a son siège à Berne, qui a une statue à Berne et qui est une des deux associations qui est plus grande que l'ONU. Vous avez des États qui existent et qui sont dans l'UPU mais qui ne sont pas dans l'ONU. Il y en a une autre d'ailleurs, la deuxième, qui a son siège à Lyon, qui est plus grande que l'ONU. C'est Interpol. J'ai reçu ça tout récemment, mais je n'avais jamais vu. Il y a un contrôle de ce truc qui m'est arrivé de Mongolie, et il y avait un tampon avec Union postale universelle sur l'enveloppe. Voici un calendrier universel. Donc on a différentes choses qui portent cet adjectif de universel. Ici, vous avez la liste des expositions internationales. Vous savez qu'on en a, je crois, tous les deux ans, et on les appelle des expositions universelles. Certaines sont spécialisées avec un thème, autrement elles sont universelles. Et je pense qu'on a glissé du terme universel de la fin du 19e au terme international, pour des choses du même type. Et... c'est un glissement qui est peut-être comparable, je n'ai pas fait des profondes études là-dessus, mais dans le temps on parlait de morale, puis maintenant on parle d'éthique. Tout à coup on a besoin d'un mot nouveau, mais en fait le contenu est à peu près similaire. Donc je pense que maintenant on dirait plus volontiers international. Mais, est-ce que ça vous dit quelque chose? En français, EPU et en anglais, UPR. Alors, j'espère que vous comprenez deux minuscules, ça c'est français, ça c'est anglais, et puis c'est l'énorme iso, et vous verrez EO pour l'espéranto, on va voir ça après. UPR, examen périodique universel en français, vous l'avez ici, c'est le travail du Conseil des droits de l'homme, qui a son siège à Genève, qui a son logo avec la flamme au milieu des lauriers, et le Conseil des droits de l'homme examine les droits de l'homme dans tous les pays membres de l'ONU sur 4 ans. Donc chaque année, il y a une séance en mars qui dure un mois, et chaque jour, on a une séance sur un autre pays. Et il y a 10 pays qui reçoivent la tâche d'aller dans le pays donné pour examiner comment les droits de l'homme sont respectés. Et il y a sur place une répartition de saisies du respect des droits de l'homme, et ça c'est présenté à Genève également. Donc au Conseil des droits de l'homme, vous avez d'abord le pays qui s'exprime, en général par son ministre des Affaires étrangères ou de l'Intérieur, ce monsieur a 20 minutes. Ensuite, les pays, les 10 pays qui ont examiné les droits de l'homme dans un pays, ils ont chacun 3 minutes. Puis les ONG qui ont obtenu un droit de parole, ils ont 2 minutes. Et je vous raconterai pas ce soir, mais j'étais à la séance sur le Congo, RDC, et c'était... J'aurais envie de dire c'était sanglant, mais il n'y a pas eu de sang qui a coulé, mais presque, au niveau des paroles, c'était, et des cris et des pleurs, c'était épouvantable. Alors, tout est dit et protocolé, et puis ensuite, les délégations des pays peuvent faire des recommandations aux pays pour améliorer les droits de l'homme. Et je ne sais pas pourquoi, c'est intéressant que ce nom de universel est venu en 2006. Le travail du Conseil des droits de l'homme sous cette forme date de 2006. Donc cette notion d'universel, qu'on pourrait imaginer qu'après 45 on a plutôt passé à international, ben, tout à coup ça revient. Et on a aussi l'expression des universaux, vous ne pouvez certainement pas lire, pour lire il faudrait éventuellement que je remette mes lunettes. Les universaux sont des phénomènes qui se retrouvent dans toutes les langues naturelles ou dans toutes les cultures. Et j'ai pris ça parce que dans mes nombreux voyages en Asie ou en Amérique ou en Afrique, c'est les universaux qui m'intéressent. Parce que on a des phénomènes comme la naissance ou le mariage ou la mort ou les maladies ou la profession ou les relations parents-enfants. Toutes les sociétés doivent les résoudre et c'est ce qu'on appelle les universaux. Donc on retrouve ce terme. Maintenant, si on veut vraiment parler d'univers, on va plutôt parler de quelque chose qui est interstellaire. Donc l'adjectif univers est plus en relation avec l'univers au sens de l'astronomie. Et voilà notre écran pivot, universel pour le monde entier, et on va s'intéresser à Universala Esperanto Asocio, UEA, qui est l'organisation fêtière dans le monde de l'espéranto. Donc, l'espéranto, vous allez le voir, est né en 1887. Dans cette fin du 19e siècle tellement bouillonnante, avec des inventions, des réflexions, etc. Et à ce moment-là, cette association a reçu le nom de Universel. On est dans ce courant d'idées du début du 20e siècle, fondé en 1908. Alors, on va voir un petit peu l'espéranto, si vous êtes d'accord, à 9h10. Et puis, j'aurai encore 4 écran à la fin sur les langues planifiées. Ça, c'était pas dans mon thème, mais c'est en liaison avec l'espéranto et ce sera pas là. Espéranto ou tard, vous y viendrez. C'est un joli slogan qui vient de France, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, très rapidement, 1887, parution du premier livre. Donc, on est dans cette mouvance du 19e. Voilà l'inventeur qu'on présente en général avec une photo quand il est, ou un portrait quand il était vieux. Il y a évidemment aussi d'autres documents où il est plus jeune, mais ça c'est un peu traditionnel, une photo assez traditionnelle. On a un drapeau qu'on trouve même à l'entrée, peut-être vous l'avez vu. Et c'est une langue qui a été inventée par un adolescent génial. Il avait 14 ans, Zamenhof, quand il s'est préoccupé de ce problème du moment qu'il vivait dans une région avec des tensions interethniques, avec plusieurs langues, et il est arrivé à l'idée que si on pouvait avoir un vecteur entre les cultures neutres, qui soit personne, on arriverait peut-être à s'expliquer et à moins se taper dessus. Donc, on a une révolution dans l'esprit de ce jeune homme. Puis ensuite, ben, on a une évolution naturelle. Si vous avez un volcan qui sort de la mer, dès qu'il sera hors de l'eau, puis que la lave va se solidifier, eh bien, cette nouvelle montagne va subir l'érosion des vents et, comme n'importe quelle autre montagne. C'est exactement ce qui se passe avec l'espéranto. On a une évolution tout à fait naturelle. C'est une langue qui est conçue selon un système. Donc, c'est une langue qui a été pensée au départ, ce qui n'est pas le cas des langues ethniques. Vous remarquerez que je ne vais pas parler de langue naturelle. Parce que pour moi, l'érosion, c'est un phénomène naturel, mais la langue, c'est un phénomène culturel. Donc, on a français, allemand, anglais, espagnol, etc. Ce sont des langues ethniques. Et puis ici, avec l'espéranto, on a une langue qui est construite. Il y a des gens qui disent langue artificielle. Alors, il y a un grand professeur à Genève qui dit « Vous n'aimez pas les choses artificielles? Vous êtes venu en voiture? Qui c'est qui est venu à cheval ce soir ?» Alors, oui, on prend une voiture, c'est artificiel. On donne, c'est l'autre exemple de monsieur de Genève, là. Si vous avez un enfant malade, vous lui donnez des antibiotiques. On n'aime pas, c'est artificiel les antibiotiques. Mais dans certains moments, ça peut quand même être très utile. Donc là, vous voyez un petit peu les bases de la grammaire, des règles sans exception, que les substantifs se terminent en O, les adjectifs en A, les adverbes en E et les infinitifs en I. Et on peut travailler par déduction. Donc on ne va pas charger la mémoire. Quand vous devez apprendre les verbes irréguliers en anglais, en allemand, en français pour les non-francophones, etc., c'est colossal. Vous devez apprendre « ibu gayo chou genou, ibu chou pou ». Si c'est en allemand, vous devez apprendre « aus bei mit nas eit von zu ». C'est tout de la mémoire. Tandis qu'en espéranto, si vous avez compris toujours et jamais, vous pouvez trouver tout seul tout et rien, ou bien partout et nulle part. Et ça, c'est unique. Il n'y a pas une autre langue dans le monde qui a un fonctionnement tellement logique. Sur un mot de base, un mot racine, par exemple Kant pour le chant, on peut dire mi cantas, je chante, on peut dire canto, le chant, ou cantoi, les chants, cantisto, le chanteur, cantado, l'action de chanter, cantaro, c'est l'ensemble des chants, le répertoire d'un chanteur ou d'une cantatrice, et puis cantema, ce serait une personne qui a, comme le maçon sur son échafaudage, qui a tendance à chanter parce qu'il se sent bien. On n'a pas de verbes irréguliers. Vous avez vu les terminaisons is, as, os sur le t-shirt avant, sur le maillot, pardon. Donc on a mi, amas, vi, amas, etc. Vous avez cette terminaison as pour toutes les personnes, de tous les verbes au présent. Ce qui signifie que ce soir, vous maîtrisez l'indicatif de tous les verbes. Alors, il existe un conditionnel en us. On a trois participes actifs, trois participes passifs, comme en latin. Tout peut s'exprimer en espéranto. En espéranto, il y a des préjugés qui circulent sur l'espéranto. Il y a des gens qui disent c'est une espèce de code, on ne peut pas tout exprimer. Ça, c'est absolument faux. Puis il y a une deuxième chose, c'est que l'espéranto veut supplanter les autres langues comme l'euro a fait disparaître les autres monnaies. Et ça aussi, c'est totalement faux. Mais il y a des journalistes qui font des bonnes enquêtes et qui font après des bons articles. Et puis, il y a d'autres personnes qui sortent comme ça un truc sans contrôle aucun. Maintenant, je vous présente le petit prince que tout le monde connaît dans le monde, évidemment. Si on prend un dictionnaire, on cherche petit et on trouve mal granda. Comme vous avez malheureux, maladroit en français. En espéranto, on a le préfixe mal pour dire le contraire d'un adjectif. En français, je ne sais pas si vous savez combien il y a de préfixes pour dire le contraire. Je vais vous dire, il y en a 10. J'ai sorti un précis de Grévis, pas difficile. Il y en a 10, ce qui signifie que vous devez savoir qu'avec adroit, vous devez mettre mal. Vous ne pouvez pas dire « adroit » comme vous dites « anormal ». Vous ne pouvez pas dire « mal normal », vous devez dire « anormal ». Vous dites « invisible », vous ne pouvez pas dire « mal visible ». Donc, les 10, ça parie avec tous les adjectifs, mais toujours un certain de ces 10 avec tel adjectif. Et ça, c'est de nouveau une immense charge pour la mémoire. Ça fait aussi le charme du français, on est tout à fait d'accord. Donc, si on prend le dictionnaire, on trouve petit égale mal grande. Et prince, on va trouver princo. Vous entendez le C qui est le C du polonais. Mais voilà, le traducteur n'a pas aimé la mal grande princo. Alors, il avait une autre variante. C'est de prendre le suffixe et. Comme vous connaissez la fourche, la fourchette, la maison, la maisonnette. Ce suffixe vient du français. Donc, le traducteur aurait pu dire la princetto. Mais ça ne lui a pas plu. Donc, il a continué ses cogitations. Et il a dit la età princo. Et je pense que ça colle assez au niveau de la dimension des mots avec le petit prince. Les autres variantes, Malgranda et puis Princetto, on s'éloignait des proportions de ces trois mots en français. Peut-être que c'est ça qui a joué, je ne sais pas. Maintenant, regardez. Ça, c'est l'exemple qu'il vous faut dire à n'importe quel linguiste. Je ne sais pas si j'ai des linguistes dans la salle. La Princetto, ce suffixe « et », c'est « émancipé » et a pris la terminaison « a » de l'adjectif. Et ça a donné « état ». Ce passage ne lèse aucune règle, et Zamenhof n'avait pas prévu ça. C'est la preuve que l'espéranto suit les lois générales qui règnent sur les langues. Et j'ai déjà discuté avec 4 ou 5 linguistes, isolément. Quand ils voient cet exemple, ils disent « d'accord, ok, c'est une langue comme les autres ». C'est très intéressant ce phénomène. Et j'aime bien ce mot « émancipé », parce que Zamenhof avait prévu le « et », pardon, il avait prévu le « et », mais pas que le « et » allait devenir indépendant. Donc, il y a une émancipation de ce suffixe. Alors, ce que c'est le monde de l'espéranto, ici j'ai la liste des prix Nobel qui étaient favorables à l'espéranto ou qui l'ont appris ou qui l'ont parlé. Il y a même là un type qui était Denaskulo, donc locuteur natif en espéranto. Et vous avez une liste assez impressionnante de plus d'une vingtaine, je n'ai pas compté exactement. Et on avait, malheureusement il est décédé, Claude Piron, qui était traducteur à l'ONU et ensuite psychologue et psychanalyste, qui a vu ces recherches et qui en a tiré 2 conclusions possibles. Une, c'est soit les espérantistes sont plus géniaux que les autres, soit il y a beaucoup plus d'espérantistes qu'on pense. Parce qu'on imagine qu'il y a 2 ou 3 millions d'espérantophones, puis vous avez une brochette de prix Nobel ici qui est assez impressionnante. Vous faites comme vous voulez avec ces assertions de M. Claude Piron. Je ne peux pas vous donner la clé du secret. Maintenant, ce qu'il faut voir, ou ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une vaste littérature en espéranto. Soit elle est originale, soit elle est traduite. Parce que dans un peuple ou une ethnie quelconque du monde, il y a un groupe d'espérantophones qui va traduire leurs contes, légendes et trésors, parce que en le traduisant en espéranto, ils le donnent au monde entier. On a vu ça avec les Albanais, etc. C'est très frappant. Ici, j'ai pris un exemple avec Kawabata Yasunari, qui était prix Nobel de littérature, avec son ouvrage Yukiguni, qui se traduit en français par Pays de neige, et en espéranto par Neja Lando. Chose que vous pouvez comprendre sans problème. Voilà Neja Lando de Kawabata en espéranto. J'ai fait des comparaisons en prenant la version en français et la version en espéranto. Et j'ai une impression beaucoup plus riche en espéranto parce que c'est un japonais qui a fait l'espéranto. Pays de neige a été traduit par un français ou un francophone, ça peut être un québécois ou un suisse, je ne sais pas, ou un belge. Mais le texte français est fait par un francophone. Par contre, le texte en espéranto est fait par un japonais qui d'abord comprend certainement à 100% l'original. Avec un francophone, on peut toujours avoir des doutes. Et ensuite de ça, il a comme outil l'espéranto, qui est une langue souple où il peut construire le terme dont il a besoin. Alors, J'ai fait cet essai avec Pays de neige, mais comme je ne peux pas lire le japonais, j'ai fait l'essai avec des ouvrages de Goethe, où je peux comprendre l'original, où j'ai le français, Goethe dans ma langue, et j'ai Goethe en espéranto. Ça me fait un peu l'effet mono et stéréo. Avec l'espéranto, on a beaucoup plus, et on est plus proche de l'original. Voilà l'apport des mots japonais en espéranto, toute une encyclopédie, une petite encyclopédie, parce que vous voyez que c'est encyclopédietto, petite encyclopédie japonaise. Voilà une anthologie d'œuvres qu'on appelle post-milita, c'est-à-dire après la guerre, à partir de 45 et plus. Et voilà un des... Bon, maintenant il en a fait une quinzaine d'ouvrages, M. Hori Yasuo, qui écrit d'habitude un livre par an sur ce qui se passe au Japon. Et là, depuis le 11 mars 2011, à propos du tsunami, il nous a envoyé un rapport par jour, puis ensuite par semaine. Mais on a eu là des informations de première main, immédiates, par un Japonais qui suivait les événements au Japon. Maintenant, ça c'était l'exemple du Japon. Donc ici, vous avez un livre original. Monsieur Hori écrit en espéranto. Ce qui est dans ce livre n'existe pas dans une autre langue, japonais ou autre chose. Maintenant, après l'exemple du Japon, je mentionne que, bon, en Islande, en Albanie, au Chili, vous avez en espéranto les fleurs du mal, vous avez Molière, Zamenhof a traduit Georges Dandin de Molière, etc. Bon, il n'y a pas l'ensemble, mais il y a toujours beaucoup de choses dans toutes les littératures du monde. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'espéranto ? 3 à 5 millions de locuteurs dans plus de 125 pays. 71 associations nationales. Je ne sais pas si j'ai le temps, mais ici, vous pouvez regarder la liste. Que ce soit une association sportive, Tai Chi Chuan, le tourisme, le spiritisme, les végétariens, les vétérans, le style de vie, je lis, hein, les sciences, les syndicalistes, les scouts, travail social, solidarité... les homosexuels, le Rotary, comparaison des religions, les non-fumeurs, le christianisme orthodoxe, le progrès social, il y a les profs évidemment, il y a les nudistes, il y a les motocyclistes, il y a les cyclistes, il y a les musiciens, il y a les citoyens du monde, il y a les médecins, il y a les avocats, il y a les journalistes, les écrivains, les communistes, les constructeurs, ceux du bâtiment, et les amoureux des chats, ça c'est une vieille anglaise qui a fondé les amoureux des chats. Il y a l'islam, oui, le droit, le journalisme, les handicapés, les joueurs de go, la pédagogie Freinet, les collectionneurs de timbres, les cheminots, les évangélistes, les actifs dans l'Europe politique, les agriculteurs, les athées, les bahaïs, les aveugles. Ouais, je vous en ai lu 30 parmi 55. Mais ça vous donne une petite idée, parce que si je vous dis les médecins, les journalistes, les auteurs, les avocats, ça fait quelque chose d'élitaire. Tandis que si je lis la liste complète, vous voyez que soit vous trouvez votre hobby ou violon d'Indre, si on veut parler français, vous êtes collectionneur de timbres, vous en trouverez d'autres dans le monde entier. Soit en relation avec votre profession. Donc il y a les deux variantes. Donc, mouvement et centre mondial à Rotterdam, rencontres nombreuses, stages, congrès, radio, TV, musique, théâtre, il y a maintenant une radio 24 heures sur 24 sur Internet qui s'appelle Mosaico. Réseau de personnes qui vous accueillent gratuitement, ça c'est Passeport à cerveau, on trouve sur Internet aussi. Associations spécialisées, on en a parlé, ah oui, c'était les associations nationales d'abord, associations pour la France, pour la Suisse, etc. Les spécialisés, c'est ce que je viens de vous lire dans ce Yar Libro. Et Wikipédia, 223 872 articles en date du 3 janvier 2016. Ça vous donne une petite idée, concrètement, ce que c'est. Reconnaissance officielle. Alors, on a déjà parlé de l'Union postale universelle, 1923. L'espéranto, si on l'utilisait dans un télégramme, c'était considéré comme un code et on devait payer par signe. Et en 1923, l'Union postale a dit, c'est une langue claire, donc on va payer par mot. Et ça, c'était une reconnaissance officielle parce que, à l'ordre du jour de cette Union postale, il y avait un point sur l'espéranto. Ça veut dire que l'espéranto n'était plus une idée farfelue dans l'esprit d'un adolescent ou de quelques personnes, mais ça devenait quelque chose qui existe. Résolution de l'UNESCO à Montevideo en 54, positive, qui reconnaît les mérites de la langue, parce que les buts sont les mêmes, UNESCO et espéranto, c'est tout à fait frappant. Ensuite, vous voyez ce EO pour espéranto décidé par ISO, International Standard Organization. Deuxième résolution de l'UNESCO en 85, le Pen Club en 93 accueille le Pen Club en espéranto. 2006, accréditation dans le cadre européen des langues, donc on a des examens selon les codes A1, A2, B1, B2, etc. Le cadre européen des langues qui n'est plus européen. Au début, j'étais contre qu'on aille voir les gens à Strasbourg parce que je ne veux pas emprisonner l'espéranto dans quelque chose qui est européen. Donc, j'étais contre. Et on m'a dit, ah mais attends, il y a le japonais, il y a l'arabe, il y a le chinois et le coréen. Alors, ok, d'accord, on peut mettre l'espéranto avec. En fait, c'est une structure européenne qui est très efficace, puis il y a d'autres langues qui se sont ralliées à ce cadre européen. 2012, c'est Google, vous pouvez taper, si vous regardez dans la traduction Google, vous avez l'espéranto, vous pouvez, dans un sens ou dans l'autre, utiliser ce programme Google pour traduire. 2014, l'UNESCO a fait une fleur, ça c'était superbe. Le message de Madame Bokova du 21 février, journée de la langue maternelle, a mis son message dans les 6 langues de l'UNESCO, en bulgare parce que c'est sa langue, et en espéranto. Voilà. Ensuite, on a en 14, en novembre, l'espéranto est inscrit au patrimoine culturel immatériel de la Pologne. Et évidemment, il y a des gens qui travaillent à ce que ce soit le patrimoine immatériel mondial. On n'y est pas encore. Et on a eu la décision il y a très peu de temps que dans les commémorations de 2017, il y aura le 100e anniversaire de la mort de Samenhof. Une partie de l'Union européenne a une monnaie unique. Le monde a besoin d'une langue commune. Vous voyez la nuance ? Très important. Un vecteur interculturel conçu comme langue internationale, qui respecte les langues locales. Ça, c'est un phénomène qu'on observe toujours. On a des grands spécialistes des langues locales, des langues indigènes, qui sont aussi espérantophones. C'est très marquant. On a un très bon exemple en Suisse avec Arthur Bauer, qui a écrit des livres sur le suisse-allemand. J'ai lu Arthur Bauer avant de savoir ce que c'était l'espéranto. Et voilà aussi un petit signe de Google, c'était le 15 décembre 2009 où Google avait ce petit drapeau pour annoncer l'espéranto. Langue équitable, langue de la paix, oui, bien que c'est une langue, puis on peut aussi s'insulter en espéranto, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'elle est équitable dans le sens qu'on est tous sur le même pied et il n'y a pas d'avantage pour les locuteurs natifs. Ça, il faut le remarquer. Maintenant, les gens qui apprennent l'espéranto sont au départ des gens ouverts et tolérants. Maintenant, ils ne sont pas forcément des anges, mais ils sont au départ ouverts et tolérants. Si quelqu'un est devant sa télé ou son ordinateur avec des pop-corns, il ne va pas apprendre l'espéranto. Il faut vraiment avoir envie de rencontrer des gens, de voyager et de partager des idées. Et la langue n'a pas un passé chargé comme les langues coloniales. Langue planifiée rapidement, on dit 400 projets, il y en a qui disent 1000. Descartes a décrit comment devait être une langue universelle. Simple, facile, tout le monde doit pouvoir l'apprendre, Leibniz a fait la même chose. Et 10 ans avant l'espéranto, on a eu le Volapük, qui a précédé, mais qui n'a pas atteint le même développement que l'espéranto. Et on a aussi beaucoup de langues pour machines, langues pour création. On a Tolkien, et peut-être vous savez que Tolkien a appris l'espéranto et ensuite a inventé elfique et autres langages pour ses œuvres. Ce qui est très intéressant, c'est que si vous regardez statistiquement par un robot dans la presse écrite par exemple, puis que vous pouvez capter le mot espéranto, un tiers des usages ne concerne pas la langue espéranto. Il va venir, tel programme d'ordinateur va servir par plusieurs, donc c'est comme un espéranto pour les ordinateurs. Ou bien les oiseaux ont aussi leur espéranto. Donc ça veut dire langue que tout le monde comprend. Et si vous cherchez dans le dictionnaire Volapük, c'est synonyme de charabia. Donc le Volapük, il est comme ça, puis l'espéranto, il va vers le haut. C'est tout à fait clair. Maintenant, c'est intéressant de suivre les réflexions et les études de Detlef Blanke, qui est un linguiste de Berlin, qui a décrit exactement, depuis le concept que Descartes avait établi, jusqu'à ce qu'on arrive à avoir une population, diaspora ou dans un lieu c'est égal, une population avec des locuteurs natifs, avec une littérature, avec des rencontres, ça fonctionne et tout. Il y a 28 étapes, il a décrit très précisément les 28 étapes et il n'y a que l'espéranto actuellement qui arrive à la 28e étape. Je vous remercie de votre attention.